Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Et voici une nouvelle grande tchatche, l'émission politique du Ravi sur la Grenouille. Au micro, Michel Aiguero du journal régional Pas Pareil qui ne baisse jamais les bras. Hier soir a eu lieu la première nuit de la solidarité à Marseille. 123 équipes de 5 bénévoles ont parcouru les rues à la rencontre de celles et ceux qui vivent sans abri. Aujourd'hui avec nous dans ce studio, un connaisseur des multiples enjeux du mal logement, Florent Houdemont. Mais avant de grandement tchatcher, présentons notre invité. Depuis 12 ans, à Marseille et dans sa région, ceux que concerne la lutte contre l'habitat indigne ont forcément croisé, un jour ou l'autre, Florent Houdemont. Vous êtes, depuis 2018, le directeur régional PACA de la Fondation Abbé Pierre. Parfois confondu avec le réseau Emmaüs, son but est de permettre à tous d'accéder à un logement décent, en accueillant et en orientant les personnes dans le besoin, mais aussi en interpellant avec vigueur, si nécessaire, les pouvoirs pour défendre des politiques publiques ambitieuses. Vous prenez vos fonctions en octobre 2018. Un mois plus tard, rue d'Aubagne, deux immeubles s'effondrent, tuant 8 personnes. Le drame révèle la violence sociale générée par des milliers de logements insalubres pourrissant sur place dans la deuxième ville de France. Mais vous n'avez pas découvert l'ampleur des problèmes et les solutions qui permettraient d'y répondre du jour au lendemain. Vous avez dirigé auparavant, durant 8 ans, les Compagnons Bâtisseurs de Provence. Pour faire court, une association basée à Marseille visant à améliorer l'habitat précaire tout en favorisant l'insertion professionnelle. Habitué à communiquer sur les dossiers du mal logement, vous êtes plus discret sur votre parcours personnel. Marseillais d'adoption, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes né en Allemagne, avez vécu à Brest, obtenu un diplôme à l'Institut d'études politiques de Rennes, passé une année Erasmus en Angleterre, travaillé à la com du ONG à Paris. Vous avez aussi été consultant dans la sphère de l'économie solidaire dès 2004 à Marseille. Le résumé est non exhaustif. Et dans votre jeunesse, proche des mouvements intermondialistes, vous participez brièvement à l'aventure Indymedia afin de promouvoir sur Internet des médias locaux indépendants et participatifs. Là aussi, résumé non exhaustif. Vous voilà maintenant, à 45 ans, sur le point de relever un nouveau défi. Fin mars, vous allez devenir Monsieur Habitat de la ville de Marseille, c'est-à-dire le directeur des services en charge de la lutte contre l'habitat indigne, mais aussi du logement social, du programme local de l'habitat, du grand chantier avec la métropole, du plan local d'urbanisme intercommunal, de dossiers comme la régulation des locations Airbnb, non exhaustif également. Un poste issu de la réorganisation de l'administration municipale voulue par la nouvelle majorité du printemps marseillais, désormais conduite par le maire Benoît Payan. Mais aujourd'hui, c'est bien toujours avec votre casquette de directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, à la veille de la publication d'un nouveau rapport sur l'état du mal logement en France, que vous êtes avec nous dans ce studio. Un rapport dont nous conseillons une lecture urgente et attentive à tous les candidats à la présidentielle. Il n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Une réaction peut-être à ce petit portrait?
Non, il était effectivement pas complètement exhaustif, mais assez complet. Peut-être préciser.
Il y a toujours.
Deux, trois petites choses. J'ai passé un peu plus de 9 ans, presque 10 aux Compagnons Bâtisseurs. Bon. Et pour préciser aussi, dans le cadre des futures fonctions, la ville n'a pas la compétence sur le programme local de l'habitat. C'est une compétence métropolitaine.
Ça, on va y revenir.
Mais bien entendu que la ville a envie de peser dans la planification stratégique et tous les enjeux liés à ce programme local de l'habitat. Et vous l'avez bien dit, je m'exprimerai aujourd'hui, par contre, pleinement en tant que directeur régional de la Fondation Abbé Pierre.
Alors, je le disais au tout début, nouveauté à Marseille, une nuit de la solidarité. C'était quelque chose qui a été lancé à Paris. Et là, c'est la première édition à Marseille. Il y a aussi des éditions un peu partout en France, hein, Lyon, Bordeaux, 14 autres villes, je crois une vingtaine, 18 au total exactement. C'est intéressant ce genre de démarche pour vous. On est dans le gadget, dans la communication, ou ça va au-delà?
Non, ça va au-delà. Les nuits de la solidarité, c'est vraiment quelque chose que à la Fondation Abbé Pierre on défend. Ça a un double objectif. D'abord, ça permet de mobiliser des centaines de bénévoles, et il faut vraiment les remercier pour leur engagement hier soir. Et donc de sensibiliser beaucoup de personnes qui découvrent parfois à travers cet engagement, lors de la nuit de la solidarité, la situation du sans-abrisme. Et c'est important de rappeler à l'opinion publique, à tout un chacun qui n'est pas privé de logement, qu'il y a hélas des drames humains qui se jouent, des gens qui meurent à la rue, des femmes et des enfants à la rue, de plus en plus nombreux. Et donc ça, c'est le premier objectif, si vous voulez, c'est un vrai engagement citoyen. Le deuxième, c'est que pour construire des politiques publiques qui visent à éradiquer avec l'horizon zéro SDF, le sans-abrisme, il faut encore savoir combien de personnes vivent à la rue et qui y sont, quel est leur parcours, pourquoi ils se retrouvent là. Et donc c'est aussi le deuxième objectif de la Nuit de la Solidarité, d'améliorer la connaissance qu'on a de ces publics.
Ça paraît étonnant quand on ne suit pas l'histoire de près. On ne sait pas, donc effectivement, dans une ville comme Marseille, et combien exactement de gens dorment à la rue? C'est quoi? On a une estimation?
Non, il y a des faisceaux d'indices, mais effectivement, c'est un phénomène qui finalement est assez mal connu. On a des estimations à la Fondation Abbé Pierre. On estime qu'il y a à peu près 300 000 personnes en France qui sont sans abri. En réalité, c'est 35 000, 40 000 qui dorment à un moment donné à la rue et les autres qui sont souvent hébergés dans les hôtels 115, dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais donc on a quand même des données, ne serait-ce que le nombre de publics hébergés à un instant T par l'État. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle là d'une grande marginalité qui est très souvent invisibilisée. Donc les gens vivent dans les interstices de la ville, sont cachés, sont invisibilisés. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller vers eux et d'essayer de mieux comprendre le phénomène et ses parcours terribles. Et c'est autant de drames humains.
Sur Marseille, l'échelle, c'est 10 000 personnes, à peu près 14, je crois. J'ai vu un chiffre passer comme ça, encore une fois hypothétique. Hein, mais c'est ça l'échelle où on
oui,
est...
Oui, alors c'est un peu technique. Il y a différentes méthodes de comptage. Mmh. Effectivement, il y a un très très beau travail de Hassab, il faut le saluer aussi, et qui vient d'actualiser ces chiffres et qui estime qu'au cours d'une année, la dernière fois, c'était 2019 qu'ils avaient regardé, au moins 14 000 personnes s'étaient retrouvées au moins une fois dans l'année, en situation de rue. C'est probablement un chiffre très sous-estimé, parce qu'en fait, comment ils ont compris ce chiffre? Ils sont allés regarder toutes les files actives des structures qui accueillent les sans-abri, que ce soit hébergés évidemment par les services de l'État, ou toutes les structures, les accueils de jour, etc. Le CASA, qui est un service de Médecins du Monde qui fait la santé pour les personnes les plus marginalisées. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont estimé 14 000 personnes s'étaient retrouvées en situation de rue, mais c'est pas un instant T. Et voilà, donc c'est compliqué d'estimer ce phénomène. Je tiens à rajouter aussi qu'on est ravis, comme beaucoup d'associations, que cette Nuit de la Solidarité ait eu lieu, que la ville et l'État ont fait un vrai effort d'organisation. C'était un vrai test cette année. Ce qu'on espère, c'est qu'il y en aura d'autres qui permettront d'aller plus loin, parce qu'il y a quand même des points noirs dans cette Nuit de la Solidarité hier soir. Mm-hmm. Notamment, on est nombreux à estimer qu'à Marseille, il y a une particularité. C'est que la plupart des personnes sans-abri, en réalité, vivent dans des bidonvilles verticaux. C'est le cas, on a eu des drames humains au Flamand cet été avec plusieurs morts, au petit séminaire encore, il y a eu un mort avant Noël. C'est évidemment les Rosiers, Corot, Calisté, tout ce qu'on appelle nous des bidonvilles verticaux. Et c'est là surtout que les gens dorment, et donc pas forcément à la rue sur le trottoir, et du coup ils n'ont pas été comptés par la Nuit de Solidarité.
On va y venir, hein, donc à ce mal logement endémique à Marseille. Peut-être un mot aussi, on est toujours un peu ambigu dans le milieu associatif sur la question du bénévolat. Donc c'est bien que des bénévoles soient dans la rue pour faire ce type de recensement. Est-ce que ça raconte pas aussi une déficience finalement des pouvoirs publics, des structures censées, des organismes censés faire face? Alors, c'est un sparadrap ou c'est au contraire un élan?
Non. Il faut que tout le monde participe à cet effort. Donc, moi, je peux pas, au contraire, je peux que me féliciter. Le bénévolat, ça fait partie de la citoyenneté. Ça ne remplace pas, vous avez raison aussi, du vrai travail d'accompagnement social professionnel. Et là, il y a beaucoup de structures à Marseille, mais évidemment que ça reste un parent pauvre. Ils se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps sur leurs conditions salariales. Mais au-delà de ça, c'est les moyens, effectivement, que les pouvoirs publics dans l'ensemble sont prêts à consacrer à l'accompagnement des publics les plus fragiles et les plus précaires, qui est la vraie question posée. Mais c'est pas soit le bénévolat, soit ça. C'est les deux, idéalement. Et donc, on peut que se féliciter de l'engagement bénévole hier.
Ok, alors on le disait, hein, forcément, votre fonction à la Fondation Abbé Pierre, à la direction régionale, elle s'est mise en place à un moment
très particulier,
oui, qui a marqué cette ville et qui la marque encore avec la rue d'Aubagne et ses effondrements. Alors on n'en finit pas de commémorer cet anniversaire et de rappeler ce qui avance et ce qui n'avance pas. Mais quand même, enfin voilà, vous étiez à ce micro d'ailleurs en novembre, c'était un plateau et vous aviez... Et vous aviez dit, ici, il y a une défaillance flagrante dans la stratégie de production de logements sociaux. C'était quelque chose que vous avez mis en avant pour expliquer finalement les raisons fondamentales en fait qui amenaient à ce type de drame.
Oui, c'est un constat qui reste vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne choisit volontairement de vivre dans un taudis que souvent les ménages payent très très cher. Et en réalité, c'est souvent quand on regarde beaucoup de ménages qui sont éligibles au logement social et qui auraient préféré avoir une offre de logement social digne à la place de ce qu'on appelle de très mauvaise manière le parc social de fait, qui est l'habitat indigne. Donc il y a un lien entre les deux, et évidemment c'est l'insuffisance d'une offre accessible sociale ou privée hein, qui pose la question et qui génère ce drame, parce que des ménages, faute d'une solution adaptée, en fait ont le choix entre le taudis ou la rue. Pour faire le lien avec la nuit de la solidarité hier et l'habitat indigne, les ménages les plus pauvres, souvent c'est ce choix horrible qui n'est pas un vrai choix en fait, le taudis ou la rue, et qui amène à ce qu'il y ait tout ce marché, ce sous-marché locatif qui a pu autant se développer dans cette ville.
Alors dans la foulée de l'effondrement, il y a eu aussi toutes ces évacuations qui ont révélé aussi ce mal-être et ça et tout ce que ça a généré. Bon, trois ans après, on est toujours quand même sur des niveaux très très élevés. Hein. Donc ça, c'est les bilans de la mairie, hein, de l'adjoint au maire délégué au logement. 800 immeubles toujours frappés de péril, dont 200 en péril grave et imminent.
Oui, c'est des chiffres qui sont considérables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on était nombreux, hein, au Compagnon Bâtisseur, à la Fondation Abbé Pierre, etc., pour les casquettes que j'ai pu occuper, à dénoncer de longue date ce drame de l'habitat indigne à Marseille. Il n'y avait pas de réponse publique à la hauteur. Il y avait une sorte de résignation, je pense, d'une partie de la population qui subissait ce drame inhumain, horrible, mais qui ne trouvait pas de moyen d'appeler à l'aide. Ça a été un électrochoc pour tout le monde. D'une part pour les pouvoirs publics, qui se sont mis à réagir, à inspecter les immeubles, à les évacuer quand c'était nécessaire. Et c'était un électrochoc pour beaucoup de Marseillais qui se sont dit, mais en fait, je risque ma vie et je vais hurler haut et fort ma situation d'indignité, donc signaler l'état de mon logement. Et c'est ce qui a amené à cette crise sans précédent en France, hein. Voilà, avec toutes ces 800 immeubles qui ont été évacués, effectivement des milliers de personnes délogées. Voilà, aujourd'hui, c'est ce constat qu'on peut faire trois ans après. Les choses ont changé, puisque déjà, désormais, on évacue les immeubles beaucoup plus, on reloge les gens, on commence à avoir des travaux d'office faits, mais c'est sûr qu'on ne rattrape pas en deux ou trois ans des décennies de retard et d'inaction publique sur ce sujet.
Alors, un peu trop de chiffres peut-être, mais c'est pour essayer de donner des volumes, hein, mais toujours 150 ménages délogés se trouvent en hôtel, en appartement, hein, 1400 personnes toujours délogées. Ça met du temps, tout ça.
Oui, alors ça met du temps, parce qu'on manque cruellement d'offres de logement. Ça met du temps aussi, ce qu'il faut le dire, c'est que la ville continue chaque mois à évacuer des immeubles. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des signalements qui arrivent et des immeubles évacués. Donc au fur et à mesure que les pouvoirs publics relogent les personnes qui ont été délogées, des nouvelles personnes sont délogées encore chaque mois.
Alors si j'ai bien compris, c'est 30 immeubles à Marseille évacués par mois, nouveaux. Hein.
C'est effectivement
c'est
les chiffres communiqués par
la ville. Mmh. Et le différentiel que vous décrivez, il est toujours défavorable. C'est-à-dire que plus d'immeubles évacués que de gens qui rentrent, qui réintègrent les immeubles qui avaient été soumis à un péril.
Oui, ce qui devient un peu plus favorable, c'est qu'on a beaucoup moins de gens à l'hôtel. Au début, il faut se rappeler que c'était beaucoup, beaucoup de gens à l'hôtel, et on dénonce sans arrêt, y compris pour les sans-abri, c'est que l'hôtel n'est pas une solution viable et pérenne. On peut bien comprendre qu'une famille, dans un hôtel, vous pouvez pas cuisiner, vos enfants peuvent pas jouer, il y a pas assez de place, ils peuvent pas faire leurs devoirs. Donc c'est des solutions temporaires. Ce qui est devenu plus favorable, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de personnes relogées que de personnes évacuées. Et du coup, ce qui fait qu'on a quand même constaté en trois ans une baisse de nombre de personnes à l'hôtel.
D'accord. Vous aviez, je vous cite, c'était là dans une tribune du Ravi en 19, hein, donc toujours après les événements, dénoncer une véritable violence institutionnelle. C'est une formule qui était assez forte en pointant les dysfonctionnements lors des délogements en fait.
Oui, c'est-à-dire que la crise a été immense et effectivement ça a été d'une vraie. Déjà c'est un arrachement. Hein. Il faut comprendre que pour un ménage, une famille, même quand l'état du logement il est pas bon et qu'il le subissait depuis des années, s'en retrouver évacué en urgence, souvent sans le temps de prendre des affaires, ça c'est tout le quotidien qui est bouleversé, des habitudes de vie, des amitiés dans le voisinage, etc. Et c'est toutes ces habitudes quotidiennes qui sont d'un seul coup bouleversées. Donc être évacué de son logement, fût-il indigne, c'est un arrachement et c'est déjà une vraie violence. Quand ensuite la réponse en face, sans doute due à la hauteur de la crise, était violente aussi, parce que d'une part, on avait à l'époque quand même un maire de Marseille qui avait tardé à prendre la mesure du drame, voilà, qui a incriminé la pluie, les orages, etc.
Bah, pour les gens Gaudin,
pour les gens qui subissaient ça, c'était une vraie violence d'entendre ces propos, et on a connu du coup et vécu en première ligne cette colère, et c'était aussi une violence parce que effectivement, la réponse rapide, ça a été l'hôtel, elle était pas digne, et donc les gens se retrouvaient en fait à crier au secours. Je suis à l'hôtel, je peux plus faire à manger, j'ai pas les moyens de manger, comment je fais? Et il a fallu du temps pour que la réponse publique commence à être à la hauteur, et ça a été un combat qu'on a mené, plein d'associations, le collectif du 5 novembre, Marseille en colère, la Fondation Abbé Pierre, l'AMPI, les compagnons bâtisseurs, etc. On était nombreux à avoir poussé à cette fameuse charte du relogement, et c'est cette charte, ce combat mené à Marseille, qui est un vrai succès, hein, et qui est une nouveauté en France, qui aujourd'hui a été réécrit avec la ville et l'État, et qui permet aujourd'hui d'assurer un certain nombre de droits et de dignités aux personnes délogées. Tout n'est pas encore parfait, loin s'en faut, mais les choses se sont nettement améliorées depuis 3 ans, justement pour que, en fait, la réponse des pouvoirs publics, ce soit plus de la violence institutionnelle, mais une certaine dignité de la réponse, inscrite et garantie par la charte du relogement.
Donc là, effectivement, ville, association, enfin, vous avez nommé un certain nombre d'acteurs, collectifs, bien sûr. Donc là, il y a des mesures, c'est très concret, gratuité de la cantine pour les enfants, de familles évacuées, exonération des frais de garde dans les crèches municipales, prise en charge des frais de garde meubles, distribution des titres de transport, prise en charge des propriétaires occupants, enfin des... puis cette notion d'occupant de bonne foi, peut-être expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire, ça, occupant de bonne foi.
Mais j'insiste sur l'ensemble des points que vous venez de mentionner, parce que le cœur de la charte, c'est d'abord rappeler le droit. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que le droit doit, quelle que soit la charte, le droit doit s'appliquer, c'est-à-dire qu'en fait, quand un immeuble, il est frappé d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, ça incombe au propriétaire de faire les travaux et de reloger le ménage. Trop souvent, les propriétaires sont défaillants, ne le font pas. Dans ces cas-là, la loi, elle dit que le maire doit se substituer aux propriétaires et reloger les personnes. Donc ça, c'est ce qui a été fait et c'est ce qu'on a réclamé qu'il soit fait, qui est inscrit clairement dans la charte. La nouveauté de la charte, c'est toutes ces choses qui sont pas prévues par le droit, la gratuité des cantines, les titres de transport, etc., et qui sont des vraies nouveautés. Hein, en France, c'est vraiment une grande première d'avoir autant de droits garantis. Et effectivement, la prise en charge des propriétaires occupants, comme je vous l'ai dit, le maire, il se substitue aux propriétaires défaillants pour reloger le locataire. Quid de quelqu'un qui est propriétaire de son bien? La loi, elle dit rien. Normalement, tout est à sa charge et on a obtenu un certain nombre de droits pour les propriétaires les plus modestes, parce que parfois, ils se retrouvent avec encore un crédit sur leur logement qu'ils peuvent plus occuper et ils doivent payer un nouveau loyer pour se reloger. Donc, on a obtenu que soit regardé le taux d'effort pour que les propriétaires les plus modestes soient protégés. Les occupants, effectivement, de bonne foi, quelle est cette notion? C'est que on a beaucoup de marchands de sommeil, en fait, qui donnent une location sans signer de bail. En prenant des loyers de la main à la main. Et du coup, on avait la crainte qu'un certain nombre d'occupants soient considérés comme des squatteurs et pas pris en charge par la puissance publique. Et donc, on a insisté pour qu'on définisse mieux qu'est-ce que c'est qu'un occupant de bonne foi et que quelque part, presque, on renverse la charge de la preuve et qu'on interroge le propriétaire. Si vous aviez quelqu'un, vous prétendez que c'était un squatteur, est-ce que vous aviez fait une procédure d'expulsion? Est-ce que vous aviez dénoncé le squat? Non. Donc, en fait, on peut soupçonner qu'effectivement, il y avait un contrat de bail de fait, un contrat oral. Et donc, on avait affaire à un occupant de bonne foi, et ça permet de protéger beaucoup de personnes. Et on se retrouve là dans le même sujet que la nuit de la solidarité, c'est tous ces interstices de la ville pour les publics les plus précaires et les plus modestes, et en fait qui trouvent des solutions comme ça, de pis-aller, de la main à la main, et qui se retrouvent en fait sans contrat écrit qui garantisse un certain nombre de droits. Et donc c'est une vraie victoire qu'on a obtenue, et on se félicite que l'État et la ville d'ailleurs aient accepté de l'inscrire pleinement dans la charte.
Autre point qui a fait beaucoup réagir, questionner et qui questionne encore aujourd'hui, c'est le bon curseur pour la question de est-ce qu'il faut maintenir les gens ou évacuer les immeubles. On a eu l'impression que pendant des années, rien n'était fait, et puis il a fallu, on a voulu, pour montrer qu'on agissait, se protéger, peut-être plus que protéger les gens.
Alors c'est un débat presque d'experts. Est-ce qu'on a surréagi après des années d'inaction? Quand même, quand on regarde concrètement, alors surtout aujourd'hui où les choses sont un peu plus stabilisées que fin 2018, début 2019 où c'était vraiment la crise et on agit très en urgence, aujourd'hui quand même il faut dire les choses, c'est que si les immeubles ils sont frappés d'arrêtés de péril, c'est qu'il y a des experts qui sont passés, qui avaient bien péril. On n'a pas surréagi. Quand on voit le nombre d'immeubles qui auront été frappés d'arrêtés de péril imminents ou ordinaires, alors les termes ont changé depuis le 1er janvier mais tout le monde les utilise toujours, maintenant on parle de mise en sécurité, mais bref. Quand on voit le nombre de logements concernés et d'immeubles concernés, en réalité, la plupart, il fallait les évacuer d'urgence. Et voilà, donc en fait, non, on n'a pas surréagi dans l'ensemble, à quelques cas près, mais c'est un débat d'experts. Avant tout, c'est pas la question qui se pose toujours, c'est de protéger avant tout la population. Donc en cas de doute, il faut pas voilà, il faut pas évacuer systématiquement, mais on peut surtout pas renoncer à une évacuation en disant ah, peut-être que... Il faut se rappeler, parce que la Fondation Abbé Pierre s'est portée partie civile dans le drame du 63 à 65 rue d'Aubagne, les deux immeubles qui se sont effondrés. Il faut se rappeler que 15 jours avant le drame, la question de l'évacuation du 65 rue d'Aubagne s'était posée. Et que si on avait évacué à l'époque, 8 personnes ne seraient pas mortes sous les décombres. Donc vous voyez, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une surréaction.
Et du point de vue juridique, d'ailleurs, c'est pas tranché. Donc
Non, là, l'information judiciaire est toujours en cours.
Toujours rappeler que voilà, les responsabilités n'ont pas été établies à ce niveau-là.
Pas encore.
Très clairement. Des choses semblent ne pas bouger, ou en tout cas, quand on regarde l'actualité, une récente, par exemple, avec un marchand de sommeil, la boulevard Libération à Marseille, qui loue, qui ne pouvait pas louer un Airbnb, c'est la Marseillaise, nos confrères de la Marseillaise qui ont révélé ça, qui est bien connu, hein, c'est David B, un multirécidiviste, et à nouveau on le voit sur un dossier comme ça avec des maires isolés dans un logement exigu. Alors là, l'immeuble n'est pas insalubre, mais le logement est pas exigu et évidemment il pose des problèmes sanitaires.
Voilà, et peut-être impropre à l'habitation selon. Oui. Voilà, je connais pas. Spécifiquement,
donc, voilà.
Alors
là, on a un personnage public très connu, multirécidiviste, sous contrôle de police, et il continue à pouvoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, malgré tout ce qu'on vient de dire?
Eh ben, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire sur la lutte contre les marchands de sommeil. Ça reste peut-être d'ailleurs un des points faibles de la réponse aujourd'hui. C'est la réponse pénale. C'est le travail du parquet, hein, et on s'en félicite aussi, puisque l'État mène désormais à nommer, en fait, un procureur et à confier des missions des moyens renforcés ici dans les Bouches-du-Rhône comme dans d'autres endroits en France où l'habitat indigne faisait floresse, pour que le parquet ait davantage de moyens d'enquête. Mais peut-être qu'il manque encore l'accompagnement des victimes pour qu'ils puissent se saisir du droit, porter plainte, aller au pénal et être accompagnés pour ça. C'est d'ailleurs une des missions que fait la Fondation Abbé Pierre ici à Marseille. On finance 3 permanences, hein, d'associations dans la ville. Et donc, il faut pas que les gens hésitent à aller voir sur notre site et à appeler, parce qu'on peut les accompagner pour faire valoir leurs droits. Et ça reste effectivement peut-être un des points faibles, cette lutte contre les marchands de sommeil. Il y en a d'autres, hein, que lui, qui sont connus. Mais on s'en félicite quand même par rapport à ce qui se passait encore il y a 4-5 ans où il y avait rien. Là, désormais, on a beaucoup, beaucoup d'instructions ouvertes. Et on espère, il y a eu les premiers procès, il y en aura d'autres à venir. J'en ai aucun doute là-dessus.
Le permis de louer, à un moment, c'est cette mesure-là, faisait assez consensus, hein, alors que pourtant c'est compliqué, on va y revenir. tout n'est pas facile, hein, même sur ces dossiers. Mais là, le permis de louer, voilà, ça semble être une mesure qui, en l'occurrence, là, sur un cas comme ça, c'est pour vous, c'est une mesure efficace.
Non, le permis de louer, c'est un des outils. C'est le plus simple à comprendre, donc on en parle souvent, on le cite en avant. Effectivement, c'est que avant de pouvoir louer un bien, il faut que un inspecteur passe pour vérifier, enfin quelqu'un vienne contrôler l'état du logement et qu'on vous autorise ou pas à le mettre en location. Ça paraît le plus simple, ce fameux contrôle technique du logement, comme on l'a pour les voitures. Maintenant, ça pose des problèmes opérationnels, c'est-à-dire que si vous le faites à l'échelle d'une ville comme Marseille, il faut d'énormes moyens humains. C'est pas forcément raisonnable. Donc l'idée, c'est de le concentrer sur les zones les plus connues. Pour l'instant, il a été mis à Noailles. Ça a été une demande de la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi est-ce que, par exemple, ce permis de louer n'est pas étendu sur l'ensemble du 3e arrondissement, la Belle de Mai notamment, Saint-Mauron, qui sont des zones très touchées, sur les îlots démonstrateurs. Donc moi, je me félicite que la métropole ait mis en place ce permis de louer sur Noailles. On aimerait qu'il soit déployé désormais dans les autres zones de Marseille très touchées, au moins le 3e arrondissement, Belle de Mai, Saint-Mauron, qui est un vrai, vrai sujet aussi d'habitat indigne. La métropole, là, l'a déployé, et je le comprends aussi, sur d'autres villes de la métropole. Donc, il a été mis en place sur plusieurs centres anciens dans la métropole. Mais Marseille a des vrais besoins spécifiques et il serait urgent qu'il soit déployé sur le 3e arrondissement.
Vous l'avez mentionné rapidement, mais autre fait aussi, et faits divers, si on peut les appeler comme ça, mais qui rythme aussi l'actualité, c'est mort par incendie. Alors, effectivement, les Flamands cet été, le squat du petit séminaire, un demandeur d'asile mort, les Flamands c'était trois migrants, au Rosier aussi deux enfants. Alors même si C'était pas l'état de l'immeuble qui était en cause, mais
non. A priori, sur ce qu'on sait de cet incendie, c'était vraiment un horrible et dramatique accident domestique, mais c'était pas forcément lié au très mauvais état de la copropriété des Rosiers. Ça n'enlève rien au fait que
ça fait beaucoup de morts quand même en quelques mois.
Que ça fait beaucoup de morts et que les Rosiers étaient vraiment une zone d'habitat extrêmement dégradé où il faut une intervention très forte. Oui, ça fait beaucoup de morts. C'est le drame qui continue. C'est
ce que vous disiez. Donc, c'est bidonville verticaux.
C'est ça. Mais les gens meurent à la rue. Les gens, ils meurent aussi du mal logement et dans des conditions d'habitat indignes. Il faut rappeler qu'il y a eu des drames avant le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est un électrochoc parce qu'il touche le cœur de la ville. Ça a été quelque part à un moment donné, le trop plein dans le vase. L'allumette qui a été craquée parce que ça a vraiment tout frappé le cœur de Marseille. Mais là, ces drames, ils étaient là avant. Ils continuent aujourd'hui à bas bruit. Enfin, à bas bruit, mais c'est horrible. Des morts dans des conditions affreuses. L'incendie des Flamands, c'est 4 morts et c'est après des centaines de gens traumatisés qui ont vécu ça, qui l'ont vu. C'est encore les cas au petit séminaire avec une personne intoxiquée à cause des fumées de monoxyde. Donc on a effectivement beaucoup trop de drames humains, faute de réponses appropriées. Ça pointe pour nous des responsabilités qui sont d'ordre divers. C'est pas toutes les mêmes situations. Pour ce qui était du drame de la rue d'Aubagne, du drame de l'habitat indigne, c'est évidemment, ça pointe la responsabilité de la mairie sur les pouvoirs de police du maire et celle de la métropole qui doit mettre en œuvre les politiques de rénovation et de réhabilitation de l'habitat privé et qui doit produire du logement social. Pour ce qui est des drames du petit séminaire, des Flamands, etc., là, la carence, elle est clairement celle du préfet de l'État. Puisque là, on avait des gens qui étaient pour beaucoup demandeurs d'asile et qui auraient dû être hébergés par l'État dans les dispositifs OFI ou dans le droit commun sur le 115. Et parce qu'on n'a pas assez de réponses pour l'hébergement ou pas assez de réponses dignes, les gens sont contraints ou préfèrent aller vivre en squat que de rester dans des hôtels parfois de très mauvaise qualité, dans le cas du 115, où de toute façon on manque cruellement de place.
La Fondation s'exprime souvent sur le problème des copropriétés dégradées. Vous aviez dit une fois que c'est en mettant en cause, enfin toujours, il y a toujours un blanc quelque part ou un manque de coordination enfin dans ces dossiers-là.
Oui, très clairement. Sur les copropriétés dégradées,
c'est les Rosiers typiquement.
Mais voilà, c'est des compétences multiples. Là, surtout État métropole sur les plans de sauvegarde, etc. C'est bon. Un manque de moyens. Il faut que l'État en mette davantage dans le cadre de l'ANA et de l'ANRU, ses agences. Et il faut que la métropole se saisisse avec davantage d'ambition de cette situation absolument dramatique des grandes copropriétés dégradées. On est dans des situations qui sont vraiment, beaucoup de vos auditeurs ne doivent pas une seule seconde imaginer ce que vivent les gens à Kourou, Rosier, à Calisté, à Bel Horizon, et c'est tant de ces gens, et au Gyptis, pas très loin d'ici, là, du studio où nous nous trouvons, dans des conditions, mais absolument dramatiques, inhumaines. On a l'impression, quand on rentre, de clairement pas être en France. Et c'est parce que c'est des conditions de vie, mais inacceptables dans la France du XXIe siècle.
Et là, il y a un marché, c'est un marché immobilier de la misère. Des gens se font beaucoup d'argent dans ces copropriétés, dans ces lieux-là. Enfin.
Oui, j'ai aucun doute que là, à l'heure actuelle, si on va voir sur un certain nombre de sites internet, on va trouver des annonces pour des biens en vente, des T2, des T3 à 20 000 euros. Dans ces grandes copropriétés dégradées, que certains filous voyous achètent 20 000 euros pour après mettre des loyers à 600-700 euros par mois. Donc vous rendez compte, c'est de la rentabilité en fait de ces taudis pour des gens sans scrupules qui décident d'en faire un vrai business. Et c'est pour ça qu'il faut une intervention forte des pouvoirs publics. Peut-être ça passera par des moyens très lourds, la préemption par les pouvoirs publics de ces logements pour les remettre en état et redresser ces copropriétés dégradées qu'on a laissé filer de mauvaise gestion de décennie en décennie. Et donc ça interpelle vraiment. Mais c'est encore une fois aussi l'insuffisance de logement social qui est pointée. C'est-à-dire qu'encore une fois, d'ailleurs, beaucoup de gens, en pensant HLM, pensent grande tour, grands ensembles. C'est des a priori qu'il faut vraiment casser. Il y a des petites maisons absolument magnifiques avec jardin, des très beaux immeubles avec balcon tout moderne qui sont du HLM. Et vous avez beaucoup de ces grandes barres ou de ces grandes tours à Marseille qui ne sont pas du HLM, qui sont des copropriétés privées et qui sont en très mauvais état avec des décennies de mauvaise gestion.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenoble.
Et donc, tradition dans cette émission, l'invité choisit une chanson et vous avez choisi Habitude de Ayam.
Aucun visage ne me regarde. Et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil.
Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont lasses, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays. Par en vrille, je suis là par manque de chance. La vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois comme ceux qu'on retrouve. Trouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile doucement, je deviens une simple habitude.
On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette. Une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête.
On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes, rien qui nous retient ici, ni maison ni repère. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles, on brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chasse parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde, faire semblant de ne pas me voir et ça me marque. Plus que le temps a tué, sur le goudron une tache dans ce parc. Vos non-dits qui en disent long me rattrapent. Et parmi nous beaucoup se résignent, face au mépris ils signent pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut.
On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette. Une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus.
On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Pourquoi ce choix ?
Alors, bon, plein de raisons. C'est le lendemain de la nuit de solidarité, c'est cette belle chanson d'Ayam, parle du sans-abrisme, de l'indifférence des passants, de l'invisibilité de ces sans-abri que justement la nuit de solidarité essaye de lever en allant à leur rencontre le temps d'un soir. Et par ailleurs, c'est une chanson que Ayam avait donnée à la Fondation Abbé Pierre. Je les en remercie. Donc c'était voilà une évidence pour moi de choisir ce titre aujourd'hui, étant marseillais à Marseille. Le clip a été filmé à La Friche où nous nous trouvons en ce moment dans le studio. Donc c'était un triple clin d'œil à la nuit de la solidarité, à Marseille, à La Friche, à Ayam et puis à la Fondation Abbé Pierre.
Bon, on continue à faire des allers-retours dans les sujets, même s'il y a un fil conducteur, vous l'avez bien compris, et le temps. Toujours, je vous cite, dans ce studio, mais en novembre 2018. Et vous disiez, nous avons besoin que tous les pouvoirs publics se réunissent afin de travailler ensemble. Le jeu de ping-pong avec la balle sans cesse renvoyée d'un côté à l'autre doit prendre fin. Bon, on en est où?
j'ai pas une ligne à enlever à ces propos aujourd'hui. Non, mais vraiment, parce que la compétence du logement et de l'habitat, elle est extrêmement éclatée. On est sur des sujets très très complexes. Il faut bien comprendre que quand on construit, quand on programme une construction, c'est pour des décennies qu'on doit penser la ville. Et c'est le cas partout en France. Et aujourd'hui, dans plein de territoires, hein, pas qu'à Marseille, on a trop souvent, en fait, comme c'est une compétence éclatée, chacun qui dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre ». Et c'est insupportable pour nous qui sommes sur le terrain, d'entendre ces pouvoirs publics se renvoyer la balle. Nous, on demande vraiment à ce qu'il y ait... Le sujet est tellement dramatique et tellement crucial. On demande une action rapide et on demande une vraie concertation des pouvoirs publics. Il faut trouver du consensus sur ces sujets. Sur l'habitat indigne, j'ai le sentiment qu'il y a un certain consensus aujourd'hui à Marseille, notamment sur le centre-ville. Il reste à en trouver, notamment sur les questions de logement social. Et là, c'est le cas dans toute la région, où on a beaucoup, beaucoup trop de maires carencés à ces rues, beaucoup encore trop de réticence ou d'opposition à créer un vrai choc de l'offre en matière de production de logements sociaux. Cette production qui n'arrête pas de s'effondrer d'année en année en France et en région.
On va y revenir, mais restons encore un petit moment sur Marseille. Et on a quand même vu le président de la République, par exemple, s'intéresser à Marseille et comme d'autres, et comme vous, la Fondation, trouver que ça n'allait pas forcément assez vite. Je pense, par exemple, à la mise en place de la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Alors, on rentre dans les trucs, dans les cycles très techniques, mais le SPLA-IN. Enfin, c'est l'ensemble qui réunit métropole, État, ville pour piloter la rénovation du centre-ville.
Aujourd'hui, elle est en place.
Alors, il y a un directeur, ça.
Oui, non, mais il y a son directeur, Franck Caro, quelqu'un de qualité et expert de ces sujets, qui est quelqu'un qui, je pense, fait consensus entre les acteurs publics. Aujourd'hui, les équipes sont réunies et je crois que le calendrier entendu, c'est un passage en mars à l'ANRU qui va permettre de débloquer les crédits et de commencer l'action concrète de cette société qui vise, il faut le rappeler, à racheter des immeubles sur des îlots démonstrateurs et à les réhabiliter. Donc, vraiment à piloter la réhabilitation sur ces îlots démonstrateurs, soit en incitant, voire en obligeant les propriétaires à faire les travaux et quand ce ne sera pas possible, en achetant leurs biens, en les expropriant et en faisant un maximum du logement social en plein centre-ville.
Le match, le bras de fer métropole versus ville qui traverse aussi un clivage politique. Il faut rappeler que Marseille et sa métropole, ce n'est pas la même couleur politique contrairement à, je sais pas, à Lyon, Bordeaux...
Oui, ben c'est,
ça ne facilite pas les choses.
Ça facilite pas les choses. Ma petite expérience lointaine me ferait dire que, attention, même quand c'est le même bord politique, c'est pas toujours simple.
Effectivement.
Donc le sujet n'est pas
ça
que
aussi, voilà, compris dans cette ville.
Y compris. Donc le sujet n'est pas que marseillais, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Il faut, je l'ai déjà dit, c'est des sujets graves. Il faut qu'on puisse construire du consensus entre pouvoir public et société civile. Je pense qu'il y a aussi sur Marseille une vraie richesse du côté de la société civile, une vraie expertise, une vraie envie de faire. Et donc je pense que c'est en mettant tout le monde autour de la table qu'on va sortir de ce drame, parce que la situation est telle qu'il faudra de toute façon, hélas, des années pour redresser la ville à la hauteur de ce qu'elle mérite et de ce dont les habitants ont besoin.
Alors, logement social, on en parlait, oui. Encore une fois, à Marseille, puis on élargit. Martine Vassal, donc pour la métropole, annonce un abaissement des seuils. Alors, dès qu'on parle de ces sujets, ça devient assez technique, mais un seuil de 30 logements, c'est ça. Alors, expliquez-nous, 30% de logements sociaux dans le futur PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, mais pas partout.
C'est un vrai sujet. Alors, je peux expliquer.
Pour pas perdre nos auditeurs.
Écoutez, c'est très simple. C'est en fait quand on crée un nouvel immeuble. Je vais faire très simple. Un nouvel immeuble qui a plusieurs logements. Est-ce que on oblige lors du permis de construire à ce qu'il y ait une partie de ces logements qui soit du logement social pour contraindre les promoteurs en fait à prévoir dans leur programme une partie qui sera destinée à du logement social. On en a besoin. C'est le cas dans toutes les grandes métropoles de France. La question, c'est à quel seuil? Jusqu'à présent, les seuils étaient très hauts à Marseille. On était sur je veux pas dire de bêtises, autour de 80-90 logements. J'ai plus le chiffre exact en tête.
J'avais noté 30%
Oui, voilà, ben, donc c'est,
pour
voilà,
son logement.
Bon, pour 100 logements, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on avait des programmes de plus de 100 logements, il fallait qu'il y ait au moins 30% de notre truc soit du logement social. Le problème, c'est que trop souvent, on avait des permis de construire découpés, des programmes de 80 logements avec zéro logement sociaux.
Donc le promoteur se débrouille pour être juste en dessous et il passe sous le seuil.
Oui, et puis bon, il y a assez peu de programmes énormes avec des centaines de logements. On a beaucoup aussi de petits programmes avec 40, 50 logements. Et là, il est nécessaire de, si on veut accroître l'offre de logement social, qu'on abaisse ses seuils avec ce qu'on appelle des servitudes de mixité sociale, c'est-à-dire pour obliger à la production de logements sociaux.
Donc là, la métropole dit OK, on veut bien passer de baisser ce seuil, mais pas partout. Alors avec en conditionnant, si j'ai bien compris, à l'éloignement des transports publics.
Oui, ce qui renvoie hélas à l'insuffisance de l'offre de transport.
Ce qui limite beaucoup de zones.
Voilà, ce qui limiterait trop de zones. Donc il y a un vrai enjeu. Bon, pour la Fondation Abbé Pierre, et je pense que ça c'est extrêmement important. Il y a urgence à rééquilibrer l'offre de logement social dans cette ville, parce que c'est un autre problème. Donc on s'est battu d'ailleurs pour la loi 3DS en cours que sur un amendement qui pour l'instant est passé, mais on attend que la loi soit totalement promulguée et finie les navettes parlementaires, mais pour ce que à Paris, Lyon et Marseille, on soit au moins à 15% par arrondissement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des arrondissements, les quartiers nord de Marseille, on va avoir des taux à 30-40% de logements sociaux, et puis d'autres quartiers de Marseille, les arrondissements les plus riches, on va être parfois à 5-6% de logements sociaux. Et ça, c'est pas possible. C'était aujourd'hui, on fête les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre. C'était son dernier combat. Ses derniers combats, il était monté au perchoir de l'Assemblée nationale pour rappeler l'importance de la loi solidarité renouvellement urbain qui vise à produire du logement social, mais aussi à le rééquilibrer pour éviter qu'on ait d'un côté des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Pour faire court, c'est une question de solidarité, de citoyenneté, de vivre ensemble. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour la Fondation Abbé Pierre qu'on rééquilibre et pas seulement juste autour des stations de métro et de tramway. Très certainement, il faut être beaucoup plus ambitieux dans l'abaissement des seuils sur Marseille et comme dans beaucoup d'autres villes de la métropole. Hein, on a beaucoup de villes carencées à ces rues sur cette métropole comme en PACA.
Et donc justement, en PACA, vous avez sorti le rapport régional récemment, annuel. Vous parlez d'un effondrement de la production de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une tendance nationale, mais dans la région, elle est amplifiée.
Oui, mais alors comme souvent depuis des années, si vous voulez, on est les plus mauvais élèves de la loi SRU depuis des décennies, depuis des années et des années, on produit pas assez. Ce qu'on constate, c'est qu'après un plus haut en 2016, la production de logements sociaux en France n'arrête pas de s'effondrer d'année en année. Alors la catastrophe étant absolue, étant en 2020, année de Covid, d'élections municipales, etc., on était sur des seuils historiquement bas. Mais cet effondrement qui est national, il est encore plus rapide chez nous, alors que c'est pourtant chez nous qu'il y a le plus de retard à rattraper. Et donc ça, c'est strictement scandaleux et incompréhensible. Il faut vraiment un vrai choc de ce côté-là, de l'ensemble des maires et des pouvoirs publics et des métropoles, PCI de la région.
Alors une élection municipale, c'est pas bon pour le logement social? Parce que les maires ont peur d'être stigmatisés s'ils en construisent, enfin.
Bah, c'est aussi des logiques techniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en campagne, etc.
On peut
pas, voilà, il y a donc c'est des raisons assez techniques, mais c'est sûr que on sait que c'est des années pas favorables. Là, on a eu la crise sanitaire, mais on nous a trop vendu que 2020 était une année exceptionnelle, c'est un problème conjoncturel. Alors que comme vous l'avez dit, c'est une tendance longue. Depuis 2016, ça baisse. C'est un des parents pauvres du quinquennat. On en parlera en fin d'émission, parce qu'on va bientôt dévoiler notre rapport national le 2 février de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. C'est un des très mauvais points noirs de ce quinquennat, avec un choc de l'offre qui n'a pas été au rendez-vous et une production de logements sociaux avec explicable par plein de mesures prises par ce gouvernement qui font que nationalement la production elle s'est effondrée. Hélas, là où on avait le plus besoin, c'est en région PACA, l'effondrement était encore plus rapide qu'ailleurs.
Citons peut-être des exemples, des lieux. Alors dans les Bouches-du-Rhône et au-delà, enfin on parle.
On mesure les bons élèves. Écoutez, c'est simple. Si on regarde sur l'ensemble de la France, dom-tom inclus, les endroits où il est le plus dur d'obtenir un logement social, c'est ce qu'on appelle le taux de tension. On regarde le nombre de demandeurs et en face le nombre de logements qui ont été attribués dans l'année. Les taux de tension les plus élevés de France, c'est dans les Alpes-Maritimes que vous les trouvez. C'est l'axe Menton-Monaco, c'est Nice qui est troisième. Donc c'est là qu'on trouve les taux de tension les plus forts. C'est plus difficile d'obtenir un logement social à Nice qu'à Paris.
Et alors de Marseille, peut-être il faut le préciser, mais il y a des pauvres à Nice et sur la Côte d'Azur.
Exactement.
Il y
a ce cliché qui est très faux. Et effectivement, dans les zones les plus touchées par le mal logement, très clairement, il y a tout le littoral du Var et des Alpes-Maritimes. On est par exemple sur des, alors un peu moins d'habitat indien, mais par exemple beaucoup de surpeuplement, donc des familles contraintes de vivre à 5, 6, 7 dans un studio. On a des problématiques d'expulsion pour un payer de loyer qui sont Tout simplement, le taux d'effort aussi, c'est-à-dire la part qu'un ménage de ses revenus, qu'un ménage doit consacrer pour se loger, le plus élevé de France, c'est dans les Alpes-Maritimes, devant Paris. Les loyers, ils sont un peu moins chers, mais les revenus, ils sont moindres aussi. Donc effectivement, on est une région qui est plus pauvre qu'en moyenne nationale, beaucoup plus pauvre, et avec des logements beaucoup plus chers qu'en moyenne nationale. Vous voyez, quand vous avez des pauvres et des logements très chers, bah, comment ils font pour se loger? Bah, ils n'y arrivent pas. Et le drame, c'est à Marseille, c'est évidemment l'habitat indigne, le sans-abrisme, etc. Mais vous le trouvez à Nice, à Toulon, sur toute la Côte d'Azur. Le plus faible taux de la région de logements sociaux, c'est dans le Var que vous le trouvez. À peine 8% des résidences principales sont des logements sociaux. Donc on a vraiment un vrai, vrai problème propre à cette région en matière de production d'une offre accessible et de maîtrise des coûts du loyer.
Et on parle toujours de clichés, mais logement social, c'est toujours associé aux grandes barres et enfin il y a un effet repoussoir, mais
oui,
ça fait très longtemps que c'est des programmes ne se relèvent pas de.
Mais
de,
non,
de...
voilà, on a des programmes de très très bonne qualité. Il y a peut-être un défaut de pédagogie, mais ça renvoie à la volonté des maires et des élus. Ailleurs, ils ont fait cette pédagogie auprès de leur population, expliquer, mais non, un programme de logement social. Ben moi, quand les gens ils disent pas de logement social à côté de chez moi, j'ai envie de dire, mais alors vous voulez pas que l'aide-soignante qui vous a sauvé pendant le Covid, que l'institutrice de vos enfants, elle trouve un logement à côté de chez vous? Parce que c'est ça en fait le logement social aussi, il faut le rappeler, aujourd'hui on a des tas d'actifs qui vivent dans une voiture, dans une cave, dans cette région, parce qu'il n'y a pas d'offre de logement adapté. Mais il n'y a pas que le logement social, hein. Ça ne suffira pas hélas, il faut aussi réguler le parc privé. Ça passe par des mesures, là, comme Marseille vient d'annoncer sur la réglementation des plateformes Airbnb. Moi, mon étonnement, c'est l'encadrement des loyers. Sur la dernière décennie, les prix ont grimpé beaucoup plus vite à Paris et Lille qu'à Nice ou qu'à Aix-en-Provence. Beaucoup moins vite, beaucoup moins vite. D'accord. Et pourtant, Paris et Lille, on dit mais la hausse, elle est plus soutenable, on va déclarer l'encadrement des loyers. Pourquoi est-ce que Nice ou la métropole ici, Aix-Marseille, n'ont pas mis en œuvre l'encadrement des loyers? Pour moi, c'est incompréhensible.
Airbnb, parlons-en. Alors, on cite souvent l'exemple de Barcelone en Espagne, ville totalement... complètement emporté par ce phénomène.
On muséifie et après on n'arrive plus à loger sa propre population. C'est un vrai drame.
Est-ce que la Fondation mesure en PACA ces phénomènes-là qui est assez récent? Est-ce que vous avez une visibilité un peu sur ce qui se passe là-dessus?
Oui, alors j'ai pas tous les chiffres en tête. C'est un combat qu'on mène, en tout cas, à la Fondation Abbé Pierre et au niveau européen avec la FEANSA, une fédération dont on est un des acteurs principaux, parce que c'est aussi un sujet là étudié par la Commission européenne. Il y a un vrai problème de réglementation. C'est, vous l'avez dit, Barcelone, etc. Il n'y a pas qu'en France.
Parce que qui dit PACA dit tourisme, dit attractivité,
voilà.
Donc Airbnb.
Exactement. Donc on sait qu'effectivement, Marseille, Nice, etc. sont des villes très, très touchées. Hein. Tout le littoral, évidemment, les zones touristiques sont très touchées par ces plateformes. C'est de la concurrence pour les hôtels, mais surtout, c'est de la concurrence pour les gens qui doivent se loger dans ces villes. Et donc, il y a urgence à réglementer. Il y a urgence à ce que la loi nous permette de contraindre davantage ces plateformes qui jouent, ça dépend lesquelles, hein, parce qu'il y en a plusieurs. On cite souvent Airbnb, c'est pas la seule. Et il faut qu'elle joue le jeu de la transparence des données et d'aider à réguler, à réglementer ce marché.
Je reviens à Marseille, mais c'est vrai que les chiffres de 1000 logements officiellement qui passent par ces systèmes-là à Marseille, plutôt 10 000 des 10 certains spécialistes, parce que c'est pas... Effectivement, il y a plusieurs plateformes, c'est pas très clair.
Non, et puis si vous voulez, ce qui est complexe un peu, hein, c'est encore technique, mais c'est quelqu'un qui loue sa résidence principale parce qu'il est parti en congé, qu'il en profite pour la louer. Ça pose pas de problème. Le problème, c'est les gens qui mettent ça à l'année, qui louent à l'année ou qui louent sur des périodes très longues, donc qui refusent en fait un bien qui était destiné à la location de quelqu'un, qui le retire du marché locatif pour le passer en touristique. C'est ça le problème, c'est pas l'ensemble des logements. Et pour ça, il faut que les plateformes elles soient transparentes. Qu'est-ce qui relève de quelques jours loués dans l'année où on peut se dire, tiens, c'est quelqu'un qui est parti en vacances et qui a loué son appart, d'autres offres qui sont régulières et qui du coup sont louées beaucoup beaucoup de jours. Aujourd'hui, la loi dit 120 jours. Nous, on demande d'ailleurs que ce soit abaissé, le nombre de jours à partir duquel on peut obliger le propriétaire à déclarer la location, et donc ce qui permet après au pouvoir public de réguler.
Alors là, toujours sur Marseille, la municipalité Gaudin avait laissé la possibilité à tout investisseur de louer jusqu'à 5 résidences secondaires en meublé de tourisme pour une durée de 6 ans renouvelable. Donc pendant 12 ans.
Oui, bah c'était
énorme. Voilà.
C'est énorme.
Et donc là, il y a une l'idée, ça serait d'autoriser que pour la résidence principale pour une durée de 120 jours, ainsi qu'une résidence secondaire. Ça vous va, ça vous paraît? Ou alors la Fondation demande une régulation plus rigoureuse?
Non, c'est déjà bien. C'est ce qu'on voit à Paris, etc. Là, non, on salue l'initiative de Marseille. Là, on demande, mais là, ça relève pas des compétences locales, mais du national, voire des réglementations européennes. C'est qu'on puisse contraindre les plateformes à plus de transparence pour donner la possibilité à des villes comme Marseille, Paris ou d'autres d'aller réguler et réglementer. Donc, il faut aussi qu'elles soient transparentes sur leurs données.
Alors, on l'a dit, le 31 janvier, vous allez présenter la Fondation Abbé Pierre sur le plan national cette fois-ci, le rapport annuel et évidemment...
Le 2 février.
Ah voilà, encore une erreur. 2 février. Ça a pris du retard, Covid, on va dire. avec une année particulière, l'année présidentielle.
Oui, alors ce sera une matinée qui sera consacrée au bilan du quinquennat. Du coup, effectivement, c'est traditionnel pour la Fondation Abbé Pierre. On commencera par un bilan du quinquennat. Je vais pas vous dévoiler toutes les choses maintenant, hein. Ce sera pour le 2 février. J'invite vos auditeurs à l'écouter d'ailleurs parce qu'il sera diffusé en streaming. Covid on s'est modernisé aussi. Mais ce sera un bilan du quinquennat qui dira quelques bons points. Il y en a le logement d'abord qui est mis en place par exemple désormais aussi. Il y a à Nice, à Marseille, la métropole s'est engagée ici. On s'en félicite. C'est un plan qui vise à éradiquer le sans-abrisme en permettant aux gens à la rue d'accéder directement à un logement sans passer par toutes les étapes d'hébergement d'urgence, d'insertion et tout. Donc c'est une très bonne chose. Et là, s'il y a des points très noirs, et notamment, on l'a dit, on nous avait promis un choc de l'offre. Or, sur tout le long du quinquennat, la production de logement social s'est effondrée avec des mesures fiscales très injustes, notamment la réforme des APL qui pénalise beaucoup, beaucoup de ménages. Donc on fera ce bilan assez sévère du quinquennat en donnant les bons points mais en soulignant tous les mauvais. Et on interrogera l'après-midi un certain nombre de candidats à la présidentielle. Alors, traditionnellement, on refuse d'inviter l'extrême droite, mais les autres seront invités à débattre avec nous. Et là, on leur posera des questions très précises sur qu'est-ce qu'ils reprendront de nos propositions, de leur programme. Que contient leur programme sur le logement. Et nous, on espère que la présidentielle, la campagne, prendra une tournure un peu moins nauséabonde que ces derniers mois et permettra de parler des vrais sujets de préoccupation des Français. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Bah, la première dépense contrainte des Français, c'est le logement.
Et pourtant, vous venez de le dire, mais enfin, c'est pas un grand scoop, mais ce sujet-là, on l'entend très peu quand même dans la bouche des candidats, dans les questions des journalistes aux candidats.
Oui, c'est hélas, parce qu'encore une fois, on parle pouvoir d'achat, mais c'est quoi la première dépense, c'est ça, se chauffer, on parle de l'augmentation des coûts de l'énergie, tout ça, c'est le logement. Ça devrait être un vrai sujet. Peut-être que pour beaucoup trop de citoyens, le logement, c'est avant tout ce qu'il y a de privé, et donc pas public, c'est son chez-soi, son intimité. Les gens voient pas assez, et c'est le message que je veux faire passer là, à votre micro. C'est un sujet politique, le logement. Comment on fabrique la ville de demain, comment nos enfants seront logés, c'est un sujet éminemment politique. Comment on préservera la planète en rénovant thermiquement les logements, c'est un sujet extrêmement politique. C'est quelle politique publique là-dessus on va réussir à mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous d'interpeller les principaux candidats sur leur programme. Et j'espère que les électeurs en tiendront compte au moment d'aller glisser un bulletin dans l'urne.
Comme je savais que j'allais faire le coup de l'embargo, j'ai regardé 2017 parce qu'il y avait 15 propositions de la Fondation Abbé Pierre. Je voudrais croire que... Vous n'aurez plus besoin de les remettre sur la table, mais j'ai un peu peur que les choses n'aient pas fondamentalement changé, même si effectivement il va y avoir des tendances. Mais vous parliez de rendre accessible le parc social aux ménages à bas revenus, parce que alors là, ça c'est curieux, mais il y a du faux logement social aussi.
Il y a différentes catégories, mais c'est pire que ça. Là, on vient de sortir d'ailleurs un rapport, parce que c'était un objectif, du coup on allait étudier ça, et en fait on s'est aperçu que les plus pauvres n'accèdent pas au logement social. Il faut le dire tout simplement, c'est nous aujourd'hui, alors ça à Marseille c'est très net, on voit régulièrement des candidats refusés par les bailleurs sociaux parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Donc en fait vous êtes trop pauvres, vous n'arriverez pas à payer votre loyer, vous êtes trop pauvres pour accéder au HLM. Bah, que font les gens? Ils vont dans des taudis ou à la rue. Hein. Et donc ça c'est la vérité, c'est que le logement social peine à loger les plus pauvres, notamment effectivement parce qu'il y a différentes catégories de logements sociaux et les logements très sociaux c'est ce dont on a le plus besoin et c'est ce dont on manque le plus.
Alors, accueillir dignement les migrants, ça faisait partie des propositions. Quel lien direct pour vous avec la question du logement, les migrants? On sait qu'ils sont, pour une part, ils sont à la rue. Souvent.
Très souvent, en fait, c'est la question, c'est nous, on se prononce pas sur la politique migratoire, mais à partir du moment où les gens, ils sont là, c'est un drame humain. Vous parlez des Rosiers, des Flamands, nous, ce qu'on voit, c'est des centaines et des centaines de femmes et d'enfants à la rue à Marseille, et beaucoup sont issus de parcours d'exil. Donc, sans se prononcer, la Fondation Abbé Pierre sur un machin, etc., on dit à minimum, ils sont là, donc permettons-leur de travailler, accordons des titres de séjour plus pérennes, parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, elle a des papiers un jour, elle est sans papiers le lendemain, et construisons des réponses s'adapter. Aujourd'hui, les migrants, ils n'ont pas le droit au logement social, par exemple. Donc, c'est un débat. Il faut ou il faut pas. Mais en tout cas, si c'est le choix du législateur, il faut au moins, dans ces cas-là, construire une vraie offre adaptée à ces publics, parce qu'il est complètement indigne en France qu'on n'arrive pas à loger mais quelques milliers de personnes. Hein. Il faut déconstruire les discours sur l'envahissement du pays, etc. Non, on a des gens en grande souffrance qui doivent, et c'est ça, c'est les valeurs fondamentales de la Fondation Abbé Pierre, trouver des conditions d'accueil dignes.
Et là, sur ce quinquennat, on a tous les images qui m'ont calé, par exemple, des forces de l'ordre détruisant des abris, des tentes, des abris précaires, des tentes, des retirant des couvertures. Enfin, on en est là encore en France sur ces questions-là, avec effectivement une forte pression au niveau des
politiques complètement absurdes, encore une fois. Mais même à Marseille, on évacue en catastrophe des grands squats, on met les gens 10 jours à l'hôtel, on les remet à la rue derrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller occuper le squat d'à côté. Donc on évacue les Flamands. Où sont les gens? Vous savez, la personne qui est morte juste avant Noël au petit séminaire, cette personne intoxiquée qui avait appelé à l'aide, hein, sur les conditions, il n'y avait plus de chauffage, plus d'électricité au petit séminaire, qui se chauffait comme il pouvait, et ben il venait des Flamands. Et aujourd'hui, le petit séminaire a été évacué. Vous retrouvez des gens au Rosier, au Corot, etc. Nous, on les suit, on est en contact avec ces gens. Donc, on voit que c'est une politique absurde parce qu'elle cherche pas à trouver des solutions durables. On intervient, on envoie les forces de l'ordre, on émantèle un camp, on évacue un endroit. Et puis, comme on prend pas en charge dignement, qu'on donne des hôtels pourris pour 10 jours, eh ben, vous reconstituez le problème aussitôt après. C'est du court-termisme, et ce dont on a besoin, c'est de réponses de long terme.
Alors, toujours, il y a ces temps, lutter contre les passoires thermiques. On a l'impression, là aussi, que c'est quelque chose qui est assez partagé dans le discours politique. Enfin, voilà, rénovation thermique des logements. On a l'impression que ça aille. Est-ce qu'on a progressé sur ces questions-là, ou est-ce qu'il y a encore fort à faire?
Mais il y a encore fort à faire. Et là, il y a une double urgence. Elle est sociale. Parce que c'est horrible, le drame des passoires thermiques, que les coûts de l'énergie, ils explosent et que les gens, ils arrivent plus à se chauffer.
40% d'augmentation.
Exactement, on voit le gaz, l'électricité, mais elle est aussi environnementale. Hein. On voit bien les enjeux climatiques aujourd'hui, donc il y a une double urgence. Et là, c'est vraiment, nous, ce qu'on espère sur l'après-crise Covid, hein, au niveau européen comme ici, localement, c'est qu'on ait de vrais efforts. Il y a eu des nouveautés, le plan de relance est assez ambitieux là-dessus. Il y a l'interdiction des passoires thermiques à la location d'ici... Alors, ça va être progressif et ça va s'accélérer à partir de 2020. Il faudra qu'on se donne les moyens de faire appliquer cette loi et donc d'inciter les propriétaires à rénover. Donc c'est une question de moyens. Il y a eu des choses de faites, mais il faut beaucoup plus de moyens.
L'encadrement des loyers aussi, c'est un vieux serpent de mer. C'est une mesure qui...
Les prix explosent, donc c'est une mesure, et on a pu la mesurer à Paris, ça marche, ça a des vrais effets à limiter les loyers les plus excessifs. Ça n'est que ça, hein. On parle pas d'interdire complètement les augmentations de loyers. On est là à réglementer les loyers les plus élevés. On a d'autres villes en Europe, Berlin, etc., qui ont été beaucoup plus offensives sur ce sujet. Nous, on réclame une mesure somme toute très modeste, et on est très surpris de voir qu'elle n'est pas retenue et appliquée dans les territoires les plus en tension, comme Nice, Marseille, Aix-en-Provence, par exemple.
C'est quoi le frein là? C'est idéologique?
Je pense que c'est, oui, sans doute idéologique, des fausses idées sur le fait que les gens n'investiront plus si on régule trop. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas régulé et que les gens souffrent.
Volet prévention aussi, parce que peut-être la meilleure façon d'éviter que les gens soient à la rue, c'est d'éviter de les mettre à la rue.
Exactement, c'est tout ce qui relève des impayés de loyer. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est zéro expulsion sans solution de relogement.
Et ça, c'est
c'est loin d'être appliqué. Alors si on l'a. Non, il faut le dire. La crise sanitaire a été horrible, hein, et a impacté très durement les plus pauvres. Mais on a une petite chance, c'est que du coup, on a une plus d'une année de trêve hivernale avec très très peu d'expulsions. Il y en a eu quand même si en théorie elles étaient interdites, mais beaucoup moins qu'avant. Et nous, notre crainte, c'est qu'aujourd'hui, en sortie de crise, les expulsions reprennent de plus belle, parce que pendant un an et demi, il n'y a pas eu d'expulsions ou très très peu. Mais les impayés, eux, ils ont continué à décoller. Et donc la crainte vraiment demain, c'est comme souvent après crise, hein, on verra comment la relance, le chômage, le pouvoir d'achat, mais c'est sûr que les problématiques de pouvoir d'achat et d'inflation risquent de faire repartir à la hausse les expulsions, et ça, c'est un vrai drame.
Autre sujet que la Fondation Abbé Pierre défend, c'est la transparence concernant les logements sociaux. C'est un vrai enjeu.
Ah oui, c'est un vrai enjeu. Les gens, il y a une telle tension, les gens ils comprennent pas pourquoi leurs dossiers sont refusés, etc. Il y a des effets de discrimination. Par exemple, on se félicite qu'à Marseille, là, la nouvelle majorité vient de dire qu'ils vont anonymiser les dossiers. C'est-à-dire que désormais, ils ne sauront plus le nom de la personne avant de lui attribuer un logement. Voilà, ce sera anonyme et ça évitera tous les effets de discrimination et ça mettra beaucoup plus de transparence dans l'étude voilà, des demandeurs sociaux.
Florent de Mont, donc cette émission va arriver à son terme et votre mandat donc aussi votre à la tête de la Fondation Abbé Pierre, ce changement de casquette donc j'ai évoqué en début d'émission, c'est ça part de quoi, de quelle envie d'agir différemment?
Oui, bah c'est effectivement, on a beaucoup interpellé à la Fondation Abbé Pierre. Pour moi, il y a une sorte de continuité du combat, d'aller mettre cette expertise, ces constats que je fais, ces propositions que je remue depuis des années au service des Marseillais, à la ville de Marseille. Donc c'est une vraie fierté pour moi de rejoindre l'équipe municipale dans la continuité, puisque mes futures compétences ce seront sur la question de lutte contre l'habitat indigne et puis de politique du logement. Donc j'entends bien continuer les combats, mais effectivement avec une autre casquette, une autre posture sans doute. J'aurai plus la même liberté de parole, mais c'est bien avec la même conviction que je veux mettre cet engagement au service des Marseillais, à la ville de Marseille et pas à la Fondation Abbé Pierre.
Dans ce réseau, dans ces collectifs, etc., dont on parlait au départ, très dynamique sur Marseille, il y a deux réactions. Certains se disent très bien, on se réjouit, on va être représenté, et d'autres disent mince, il n'aura plus le droit de parler, on va perdre une voix.
Ah, je suis flatté, mais la Fondation Abbé Pierre continuera à parler et me trouvera un remplacement qui continuera à porter haut les combats de l'abbé Pierre.
Je vous remercie.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.